Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carrette pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, nous évoquerons le 75e anniversaire de la Charte des Nations Unies avec une fresque grandiose dévoilée dans le parc de l'Ariana ce vendredi. Les œuvres d'art du Palais des Nations s'invitent au centre-ville de Genève. Et en fin de journal, retour sur le Conseil des droits de l'homme qui a achevé les travaux de sa 43e session mardi, une session marquée par la pandémie et la tenue d'un débat urgent sur le racisme et les violences policières. Nous y reviendrons avec notre invitée de la semaine, la présidente du Conseil des droits de l'homme, Elisabeth Tichy-Filsberger, l'ambassadrice d'Autriche auprès des Nations Unies à Genève. Ce vendredi, c'est le 75e anniversaire de la Charte des Nations Unies. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que ce texte était un document intemporel pour relever les défis communs à l'humanité en prenant comme exemple la pandémie de Covid-19. La Suisse a décidé de marquer cet anniversaire en offrant aux Nations Unies à Genève une œuvre d'art éphémère pour rendre hommage à son rôle dans la coopération internationale. Il s'agit d'une gigantesque peinture sur herbe réalisée dans le parc du Palais des Nations par le jeune artiste Saipé qui vit en Suisse. Cette fresque qui porte le nom de World in Progress représente les générations futures, moteur essentiel du projet de l'ONU. On écoute Saipé au micro de Sandra Miller.
Il y a plusieurs choses qui s'entremêlent à mon avis dans cette fresque. J'aime beaucoup traiter les sujets de manière positive et optimiste. Et souvent, un thème qui est récurrent dans mon travail, c'est le thème de l'enfance. Et j'aime bien traiter les thèmes par le biais de l'enfance pour différentes raisons. La première, c'est que finalement, c'est eux qui auront le monde de demain entre leurs mains. En parlant des enfants, on parle aussi de nous. Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme monde? Quelles valeurs on veut leur laisser? Et puis, je trouve que ça dégage un aspect poétique, un peu spontané. Et du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant de travailler autour des thèmes des enfants. Ici, cette fresque, elle représente deux enfants qui ont dessiné leur monde idéal. Et puis, du coup, dans ce monde idéal, on voit une farandole d'êtres humains qui se tiennent la main, mais aussi des animaux. Parce que je pense vraiment que finalement l'écologie doit être aussi au centre de notre réflexion sur notre lien au monde et à la nature. Et puis il y a aussi cette idée d'entraide, parce qu'à mon avis c'est ensemble qu'on doit réfléchir le monde demain.
N'hésitez pas à vous rendre sur notre site web ungeneva.org ou sur notre compte Twitter ONU Genève pour voir les photos et la vidéo de cette œuvre éphémère. Une fresque s'installe dans le parc du Palais des Nations Unies pendant que les œuvres d'art du palais sortent de ses murs pour être exposées dans le centre-ville de Genève. La galerie D10 accueille jusqu'à la fin août une exposition unique intitulée « Tout un monde » qui présente une série d'objets d'art marquant les 100 ans de présence de la Société des Nations puis des Nations Unies à Genève. Vous aurez l'occasion de découvrir des peintures et des sculptures offertes par des artistes qui symbolisent les droits de l'homme et plus largement le travail de l'ONU. Victoria Zodzieff, la directrice de la galerie, est au micro de Thomas Krieger.
On se trouve à présent au centre de Genève pour accueillir pour la première fois de toute l'histoire de Genève et des organisations internationales une exposition qui s'appelle « Tout un monde ». J'espère que tout un monde sera là. Je tiens à remercier Madame Valovaya pour son idée extraordinaire de transporter l'art en ville pour que les Genevois le découvre. Je vous attends tous. Venez nous visiter. Venez découvrir les joyaux de la collection de l'ONU.
L'exposition est gratuite et ouverte jusque fin août à la Galerie des 10, 8 rue Ami Lulin à Genève. Le Conseil des droits de l'homme a achevé sa 43e session cette semaine dans des conditions exceptionnelles liées au coronavirus. C'était la première réunion majeure de l'ONU à Genève depuis le début de la pandémie. Cette fin de session s'est déroulée avec des conditions sanitaires très strictes. Le moment marquant a bien sûr été le débat urgent sur le racisme et les violences policières demandé par le groupe des États africains. Pour évoquer cette session et l'avenir des travaux du Conseil, j'ai le plaisir de recevoir sa présidente, l'ambassadrice de l'Autriche auprès des Nations Unies à Genève, Madame Elisabeth Tichy-Filsberger. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Madame l'ambassadrice, est-ce que cette crise a changé votre perception du rôle que vous aviez en tant que présidente du Conseil des droits de l'homme ?
Oui, quand même considérablement, parce qu'on fait toutes des choses qu'on n'a jamais fait avant, pour lesquelles il n'y avait aucun précédent. On ne pouvait demander à personne comment faire. Il fallait inventer ces choses. J'ai vraiment dû me battre beaucoup pour rendre possible la reprise du Conseil. Donc les choses qui sont normales, on décide à la fin de l'année à quel moment le Conseil va avoir des sessions. Cette année, il a fallu se battre pour avoir des dates pour convaincre tout le monde qu'on était prêt à reprendre ce travail. Donc tout ça, c'était différent. Mais je crois qu'on a aussi vu de la part de beaucoup de délégations une conviction comme quoi il fallait faire ce travail. Le Conseil des droits de l'homme, il a un mandat, il a un rôle. C'est l'institution suprême internationale pour tout ce qui concerne les droits de l'homme. Et quand on a une crise droits de l'homme majeure, il faut absolument que ce Conseil puisse travailler. C'était ça ma tâche. Au moins, c'est comme ça que je l'ai conçu.
Est-ce que c'était difficile de convaincre toutes les délégations de reprendre cette session finalement un peu avant tout le monde, puisque très peu de réunions avaient repris? Est-ce que c'était difficile de convaincre les gens de reprendre, les délégations de reprendre?
C'était pas facile du tout, parce que certains avaient peur, certains ne voyaient pas l'urgence. Et nous, on a fait trois grandes conversations plénières sur tous les doutes, toutes les questions, toutes les préoccupations. Et une à une, on a trouvé des réponses. Et je crois que mardi dernier, on est parvenu à convaincre tout le monde. Et c'est un consensus que le Conseil a obtenu pour qu'on puisse reprendre la semaine prochaine, la session de l'été.
Alors justement, vous venez de le mentionner, la 43e session s'est achevée mardi dernier. Quel bilan général vous tirez de cette semaine un peu exceptionnelle par rapport aux autres sessions du Conseil?
Je crois que logistiquement, il y avait beaucoup de nouveautés qui ont toutes très bien fonctionné. On a permis aux délégations qui ne voulaient pas venir physiquement de rester là où ils étaient, de participer quand même. Ça a bien marché. Et beaucoup d'autres mesures nouvelles aussi. On n'a pas eu de plainte. On a discuté au Conseil et tout le monde a dit que ça avait bien marché. Ça, c'est pour la logistique, mais pour la substance, ce qu'on va retenir, c'est le débat urgent qu'on a eu sur le racisme.
Alors justement, c'est important de pouvoir se positionner, que le Conseil se positionne sur cette question du racisme et des violences policières suite à la mort de George Floyd lors d'une interpellation aux États-Unis. C'est important que les délégations, que le Conseil puisse s'exprimer, donner une position?
Je crois que c'était très important parce qu'on a vu que c'était un débat international. Il y avait un événement très malheureux aux États-Unis qui a déclenché tout un mouvement dans beaucoup de pays, y inclus ici en Suisse et dans beaucoup d'autres pays européens. Donc il y avait cette émotion dans la population. Il y avait une demande de tous les États africains qu'on discute. Cette demande n'a pas été discutée. Tout le monde était d'accord pour avoir ce débat urgent. On a bien compris que c'était un grand sujet. On a aussi compris que c'est un sujet non seulement aux États-Unis, mais dans beaucoup de pays. Donc, je crois que le Conseil a répondu à ce qu'on attend de lui dans cette matière-là.
Alors, les circonstances sont exceptionnelles. Vous venez de terminer cette 43e session mardi. Une semaine après, vous allez commencer la suivante, la 44e. Comment ça va se passer, cette session?
Elle sera toujours un peu extraordinaire. On va maintenir toutes les mesures de sécurité sanitaire, c'est-à-dire on sera dans la plus grande salle ici. On n'admettra qu'une personne par délégation, donc on aura beaucoup de distance sociale. On aura des personnes qui participeront, non pas d'ici, mais de là où ils sont, dans le monde entier. Les rapporteurs spéciaux, etc., il y en a beaucoup qui vont rapporter cette fois-ci, plus de 30. Juste une petite minorité d'entre eux va être présent physiquement. Donc il y aura toutes sortes de mesures qui reflètent encore la crise, diminuante mais quand même encore présente, du corona. En total, ça va se passer normalement, je crois, pour autant qu'on peut voir. On a biffé l'un ou l'autre point sur l'agenda, on l'a reporté à plus tard, mais ce sera une session plus ou moins normale.
Madame l'ambassadrice, maintenant sur la situation des droits de l'homme plus globalement dans le monde, il y a de nombreux rapports des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales qui montrent que les droits de l'homme sont aujourd'hui de plus en plus remis en question et menacés partout dans le monde. Est-ce que vous observez cette tendance au Conseil dans le cadre de ces travaux?
Oui, bien sûr. C'est le travail du Conseil qu'on se penche sur les violations des droits de l'homme, aussi bien chroniques que récentes, ou alors sur les situations émergentes. Ce n'est pas toujours populaire dans le monde entier, mais c'est un travail qu'il faut faire. C'est un travail qui ne se solde pas toujours tout de suite par des succès. Il faut être persévérant, il faut répéter qu'il y a des problèmes. Et puis parfois, ça donne résultat. Dans d'autres cas, il faut être patient. Il y a cette formule de la fenêtre brisée. Vous savez, la police, quand on laisse les fenêtres brisées, qu'on ne ramasse pas des débris, ça devient une habitude, tout le monde commence à briser les fenêtres. Mais si vraiment on adresse le problème, on remplace la fenêtre, on réagit, C'est important. C'est important pour la police et c'est important pour le Conseil des droits de l'homme aussi.
Dernière question. Le multilatéralisme est aussi aujourd'hui remis beaucoup en question. Comment voyez-vous l'avenir du Conseil ?
Bon, je ne suis pas prophète, mais je suis profondément convaincue et je crois que toute la société internationale l'est aussi, que le multilatéralisme est indispensable. Parce que nous vivons dans un monde global, nous voyons tous les problèmes que nous avons, tout est tellement imbriqué, on ne peut plus se dissocier de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc les réponses à tous ces problèmes ne peuvent être que multilatéraux, multinationaux, et tous ceux qui ne sont pas convaincus, qui croient qu'ils peuvent trouver des solutions meilleures pour eux-mêmes, quand ils font des choses bilatérales, d'accord, ces gens-là, ils existent. Mais je crois que vraiment la fonction principale de la diplomatie est de rester en contact avec tout le monde, y inclus ceux avec qui on n'est pas d'accord, parce que le jour vient où il faut parler à ces gens-là. Et c'est pour ça qu'on est ici tous, c'est pour ça qu'on va continuer à le faire, même si ça a été peut-être plus facile par le passé. Mais les temps peuvent changer, et voilà, il faut tout simplement maintenir.
Un grand merci Madame Elisabeth Tichy-Filsberger. Je rappelle que vous êtes l'ambassadrice d'Autriche auprès des Nations Unies à Genève et présidente du Conseil des droits de l'homme. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité des Nations Unies à Genève continue sur le site web ungeneva.org et sur ONU Genève, le nouveau compte Twitter en français des Nations Unies à Genève. À la semaine prochaine.